Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, un débrief de la tech et de l'IA, parce qu'on va encore beaucoup parler d'IA, vous en doutez. C'est quand même l'un des sujets majeurs. On voit même un Donald Trump qui part en Chine et ce sera l'un des sujets de discussion avec Jensen Huang. Mais pour en discuter, je vais pas en parler tout seul. Je vais parler avec nos experts qui sont là avec nous ce soir, Julien Villeray. Bonsoir Julien.
Bonsoir Frédéric.
Merci. Merci d'être avec nous, directeur de l'innovation chez EDF. Avec nous également Yves Maët. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Operating Partner chez Jolt Capital, que vous pourrez découvrir ce week-end dans la librairie de l'Écho pour ton livre « Arrêtez de dire bonjour à votre IA ».
Voilà, c'est ça.
Voilà, et aux éditions
First.
Aux éditions First, et on aura l'occasion d'en reparler, voilà, si vous voulez suivre ce que nous dit Yves ici régulièrement, mais aussi ce qu'il pense, ses réflexions autour de l'IA, et ce sera dans les librairies d'écho de notre collègue Emmanuel Le Chypre. On a, alors il est à distance, on est en train de faire la connexion avec Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet Numérique. Dès que nous avons la liaison, évidemment, on le fera intervenir. Allez messieurs, c'est parti. Tiens, un sujet, alors on a déjà un petit peu parlé, c'est les titres de Samsung et de SK Hynix qui chutent en bourse alors que leurs bénéfices records sont dans le viseur, alors qu'ils ont des bénéfices records, et bien ils sont dans le viseur du gouvernement sud-coréen. Pourquoi ? Eh bien, ce sont les salariés qui s'inquiètent. Alors, c'est les salariés de Samsung qui exigent une meilleure redistribution de tous ces profits, des super profits de ces deux géants des puces. Hein. Ils sont désormais au cœur d'un débat politique depuis qu'un haut responsable du pays a proposé de les partager avec l'ensemble de la société. On écoute ce que nous en dit Éline Le Fou et on revient dessus.
La proposition de Kim Jong-un tient en deux mots, dividende national. Pas question là de parler d'un impôt supplémentaire sur les bénéfices exceptionnels. L'objectif serait de redistribuer une partie des recettes fiscales excédentaires liées au boom de l'IA aux citoyens sud-coréens. Une initiative pas si étonnante au vu des résultats des deux géants de la tech, souligne François Monnier, directeur de la rédaction Investir.
L'idée, c'est de se dire, comment on peut peut-être mieux répartir les richesses. Et en Corée, à Séoul, on a deux entreprises, AL2, c'est la moitié de la capitalisation de la bourse sud-coréenne. Donc, évidemment, tous les regards sont tournés vers ces deux grands acteurs qui enchaînent croissance sur croissance et qui révisent sans arrêt à la hausse.
Les bénéfices de Samsung ont déjà été multipliés par 48 au premier trimestre, tandis que ceux de SK Hynix devraient atteindre les 152 milliards d'euros pour 2026. Le risque, selon le haut responsable, c'est le phénomène de la croissance en K, c'est-à-dire la hausse des inégalités entre une branche portée par les revenus de la tech et les actifs financiers et une seconde branche de l'économie qui décline. Kim Jong-un va même encore plus loin, à l'image du fonds souverain norvégien. Le fonds pourrait être utilisé pour investir dans l'économie ou dans les entreprises grâce à des politiques de formation et de reconversion. L'autre possibilité serait de venir en aide à certaines catégories de la population, comme les retraités ou les jeunes.
Alors c'est à la fois un sujet technologique, hein, puisque ça concerne ces entreprises, un sujet financier, puisque leur cours de bourse chute, et puis c'est à la fois un sujet social. Voilà, ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il faut les super profits technologiques ? Nous, on s'est lancé hein, les super profits d'un total et tout ça. Enfin, il faut taxer davantage. Là, c'est plutôt à redistribuer. Mais ça pose aussi une question qui crée réellement la valeur dans l'IA. Est-ce que c'est les actionnaires ? Est-ce que c'est les ingénieurs ? Est-ce que ce sont les consommateurs ? Et puis derrière tout ça, et là, ça va avoir un impact. Il y a la grève chez Samsung hein, qui vont faire grève tant qu'ils n'auront pas eu quelques subsides de ces profits. Comment il faut regarder ça, Julien ? Je démarre avec toi.
C'est la bonne vieille histoire de la cagnotte fiscale. Hein. On a connu ça en France à d'autres époques. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des rentrées monumentales d'argent bien supérieures à ce qui était prévu. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Il y a des pays où on préfère le mettre dans le système social, d'autres pays où on peut le redistribuer, d'autres pays où au contraire on les thésaurise dans les entreprises. En l'occurrence, ça c'est un choix politique potentiellement de la Corée. Donc moi, je ne peux pas juger. Hein. Ce serait leur choix, quelle que soit leur décision. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que à peu près dans tous les cas de figure, quand on a ce genre de cagnotte, ça ne dure pas.
Oui.
Et là, on peut imaginer que on est dans ce problème mondial hein, de manque de puces, de manque de RAM, etc., qui fait que les prix augmentent.
Et puis en plus, là, on parle de Samsung et de SK Hynix, qui sont des gros producteurs justement de mémoire, dont les prix sont en train de s'envoler. Samsung, la valorisation aujourd'hui, c'est 1000 milliards. Hein.
Exactement. Et aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à vendre très très cher, beaucoup plus cher que d'habitude, une production qu'ils font de façon, j'allais dire, normée, régulière depuis très longtemps. Donc, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, la question derrière, c'est que ça va s'arrêter. c'est qu'à un moment, si le marché fait son boulot, il va y avoir des capacités de production de puces qui vont se développer, et c'est en train d'être le cas, même si ça va prendre 2, 3, 4 ans probablement pour arriver. Et donc cet argent, il n'est pas infini, hein, il est one shot, il est ponctuel. Et donc c'est une vraie question politique de qu'est-ce qu'on fait quand on a cette cagnotte qui va probablement pas durer, ben, est-ce qu'on la redonne aux gens, ou est-ce qu'on investit dans ce que font typiquement les Finlandais, hein, qui était l'exemple qui était donné là, c'est-à-dire des fonds souverains qui vont aider à poursuivre la croissance sur d'autres secteurs, sur d'autres sujets, à décarboner aussi, par exemple, ça a été le cas. Voilà, la Finlande, c'est très intéressant comme modèle, hein, et la Norvège également. C'est, voilà, on prend les revenus du carbone, du pétrole en fait, hein, on les met dans un fonds pour décarboner. Alors certains trouvent ça hypocrite, d'autres pensent que c'est parier sur l'avenir. À voir.
Yves, en plus, on est en Corée du Sud, hein, qui est un pays voilà, où il y a 4-5 grands conglomérats, des Hyundai, des Samsung, des Skynix et autres, des LG. Enfin, habitué, il y a déjà eu des grandes grèves. Hein, on se souvient, dans les années 80, il y a eu des grandes grèves chez Samsung, en Corée. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je pense qu'il y a des éléments de contexte relativement importants. D'abord, comme tu l'as dit, la première chose, c'est que, et comme ça a été dit dans la vidéo, aujourd'hui, les chipsets, enfin les puces, les mémoires, il n'y a que 3 grands producteurs au monde, dont 2 sont en Corée. Et donc, ils raflent la grosse partie du gâteau.
Le troisième, c'est Micron, hein, qui est aux États-Unis.
Et donc, le gâteau grossit parce qu'il y a une demande de plus en plus forte, parce que l'intelligence artificielle demande beaucoup de mémoire. Et qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont capables de les fournir. Donc évidemment les prix montent et la demande monte. Donc il y a tout d'un coup une manne financière. Question, est-ce que cette manne est sécurisée sur des longues durées ou pas? Tu as un point de vue, j'ai tendance à le partager. C'est un point de vue, il faut savoir qu'il y a des gens qui pensent qu'on est parti pour beaucoup plus que 3-4 ans et peut-être 10-20 ans. Donc bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut se souvenir que le gouvernement coréen vient de changer, hein, puisqu'il y a eu une loi martiale qui a été établie, et puis il y a eu des mouvements politiques, là encore, que je ne commande pas, qui fait que l'ancien gouvernement, qui était plutôt de droite ou républicain, pour reprendre les termes anglo-saxons, a chuté, et là, on a un gouvernement qui est plutôt socialiste. Okay, on va dire, ou démocrate. Ouais. Le socialisme à la coréenne n'est pas tout à fait la même chose que le socialisme comme on l'entend en Europe. Donc c'est un deuxième phénomène. Et puis il y a un troisième phénomène qui est le fait que ces deux entreprises représentent la moitié de la capitalisation boursière. C'est comme si Louis Vuitton et Total, on va dire en France, représentaient la moitié, je ne vais pas dire des emplois, mais quasiment en fait, de la richesse du pays.
Samsung, c'est 260 000 emplois. Alors, la moitié, c'est 130, 140 000 en Corée du Sud, l'autre moitié à travers le monde. Mais voilà, c'est quand même...
Oui, mais non seulement c'est ça, mais c'est toute la chaîne... C'est-à-dire que les gens qui les nourrissent, les gens qui fabriquent les usines, les gens qui fabriquent les machines, les sous-traitants, etc. Donc c'est colossal. Aujourd'hui, Samsung, c'est la moitié. Enfin, imaginez une entreprise qui pèse la moitié de la France. Même EDF, qui est une grande entreprise, ou Orange, dans laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, on n'a pas ce poids-là. Enfin, mais on est loin de l'avoir. Ça s'appelle le 440, ça s'appelle pas le 42. Tu vois. Bon. Donc, on est un contexte qui est tout à fait particulier. Et dans ce cadre-là, se pose cette question de la répartition de la richesse. Je remarque une chose, c'est que cette question se pose partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que ce soit OpenAI, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, il y a une concentration de la technologie, des résultats financiers, dans quelques sociétés. Les GAFAM, quelques sociétés taïwanaises, entre autres, particulièrement TSMC, mais pas uniquement, Foxconn, par exemple, quelques sociétés japonaises, quelques sociétés taïwanaises, très peu en Europe, okay, et quelques sociétés chinoises, les BATS, qu'on appelle les BATS. Okay, bon. Et donc, c'est...
Baidu, Alibaba, Tencent et
Huawei, mais qui est pas dans l'acronyme, n'est pas dans le BATS. Bon. Et si on compte, allez, on va dire qu'il y a moins de 50 sociétés qui forment, probablement moins de 20, qui forment une richesse considérable à travers ce globe. Et donc là, il y a une concentration de la richesse, une concentration du pouvoir aussi autour de ça. Et cette question-là, elle se pose en Corée comme ailleurs. En Corée, elle est séparée en deux solutions. Donc on va parler juste de la Corée, on va refaire un focus sur la Corée. Il y a d'un côté les ouvriers de Samsung qui disent « Non, 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 moi, je veux une participation au profit beaucoup plus importante que celle qu'on a. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'elle est capée, etc., etc., et ça n'intéresse pas beaucoup. Donc, je veux beaucoup plus du gâteau. Et eux sont des gens qui font rarement grève, mais quand ils font des grèves, ce sont des grèves dures et parfois violentes, mais très violentes. Ouais. Okay, et aujourd'hui, ils disent, si à telle date, de mémoire le 21 mai, on n'a pas l'obtention de ce qu'on a, on fait une grève de 20 jours. Mais quand ça, les syndicats en Corée disent « on fait une grève de 20 jours », c'est le pays est arrêté pour 20 jours.
Ouais.
Eux s'arrêtent, mais c'est l'ensemble du pays, par voie de conséquence, qui est arrêté. Et donc ça, c'est les syndicats. Et encore une fois, c'est hyper important, parce que je ne sais pas, ça va faire au moins 10 ans qu'ils n'ont pas fait grève. Deuxième chose, c'est l'État qui dit « cet argent doit y avoir une super taxe et nous, l'État, on doit le répartir de quelle manière ?» Donc il y a deux conflits, enfin, ou deux protagonistes dans cette répartition, les employés et le gouvernement, sachant que les employés sont aussi des citoyens.
Ouais.
Donc c'était pour donner quelques éléments de contexte.
Bruno Guglielminetti, on est content de te retrouver. Bonsoir Bruno, donc journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Comment tu regardes tout cela depuis ton œil de Québec?
Ben, j'aimais bien les analyses que j'ai entendues. Quand je regarde ça, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que finalement, le gouvernement sud-coréen a devant lui toute une question, un choix difficile à faire. Parce que d'un côté, où il aide ses champions face à la Chine, face aux États-Unis, face à Taïwan, à prendre sa place, parce que bon, c'est quand même des joueurs stratégiques, ou de l'autre côté, ben il essaie de répartir et de ne pas donner l'impression qu'il y a des privilégiés dans cette histoire-là pour la société sud-coréenne. Et c'est là où ça peut faire mal, particulièrement dans un contexte de travail qui est sensible ces temps-ci. Alors, je voudrais pas être à la place des gens qui sont à la tête de la Corée du Sud, parce qu'ils ont vraiment un enjeu important. Mmh. À quelque part, c'est un peu comme la paix sociale par rapport à l'enjeu stratégique économique international.
Oui, Julien?
Il m'a beaucoup frappé dans les dernières publications de résultats financiers des GAFAM, en l'occurrence Microsoft en particulier, mais c'était vrai de Meta et d'autres. Moi, c'est la première fois depuis très longtemps que je les vois publier des résultats financiers avec une guidance, donc avec une prévision de cash flow neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils gagnent des centaines de milliards de bénéfices, hein, des qui rentrent dans les caisses. Mais en fait, ils disent tout cet argent, 100% de cet argent, je vais l'investir dans des futurs data centers, des futurs produits, etc. Donc en fait, entre guillemets, il ne reste plus rien. Ça m'a beaucoup frappé. C'est la première fois depuis très longtemps.
Ils vont même jusqu'à lever de la dette partout. Google lève beaucoup de dettes.
C'était jamais arrivé jusqu'à présent. Amazon avait connu ça, mais parce que était dans un métier où il fallait développer du dur, hein, des infrastructures en dur. Mais dans le software, c'est la première fois. Et donc, pour des gens comme Samsung, je pense, ça pose vraiment aussi cette question-là. Est-ce que l'argent, je le redistribue sûrement un peu aux salariés, sûrement un peu à l'État?
Bon, est-ce que je réinvestis?
Est-ce que je prends pas cet argent pour essayer d'aller investir quand je vois que tous les autres, ils ont des centaines de milliards à investir tous les ans? C'est une vraie question, là, pour le coup, qui n'est pas politique, qui est une question stratégique.
Alors, justement, on parle de 100 milliards, bah c'est une belle transition pour notre sujet suivant. C'est SoftBank. Hein. SoftBank qui sera en pourparler pour un important projet de centre de données en France. Mais alors, tenez-vous bien, le montant annoncé, hein, encore une fois, voilà, c'est 100 milliards de dollars. Donc voilà, alors ça devrait être annoncé à Choose France qui aura lieu début juin. Choose France qui a une grande réunion, tout un tas de patrons étrangers et puis des belles pointures, hein, qui viennent en France pour montrer combien ils vont investir en France. SoftBank, bon, c'est pas n'importe qui, on les connaît, hein, ils avaient déjà investi 30 milliards dans OpenAI, ils sont dans le projet Stargate aux États-Unis, un projet à 500 milliards, donc ils sont habitués à jongler un peu avec ces dizaines de milliards. Là, c'est assez, enfin, je sais pas comment vous voyez ça, Yves, cet investissement de SoftBank. Alors, encore une fois, le montant est annoncé là, on verra un peu s'il n'est pas revu considérablement à la baisse le jour de la signature.
Non, mais je pense que ça tombe bien que tu sois avec nous, puisque en tant que responsable de l'innovation d'EDF, j'imagine que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, c'est gentil de me faire commencer, mais je pense qu'il faut qu'on se rende compte de ce que c'est que 100 milliards mis sur des investissements de data centers. Ça veut dire que 100 milliards, ça fait des data centers, je vais dire encore un chiffre qui ne parle pas, mais on va y venir. Ça fait à peu près 10 gigabits de data, 10 gigawatts en data center. 10 gigawatts en data center, ça veut dire qu'on va faire des usines en France qui vont consommer l'équivalent de 7 ou 8 tranches de centrales nucléaires. Ça veut dire que si on prend une centrale nucléaire comme Tricastin ou autre, mais encore une fois, tu me corriges, ça veut dire qu'il va falloir entre 2,5 et 3 centrales nucléaires qui ont chacune 2 ou 3 tranches, en gros. Rien que pour faire ça, il va falloir un petit peu de temps. Okay ? Donc, on voit bien que c'est juste gigantesque. C'est tellement gigantesque qu'on n'y croit pas trop, quoi. Je veux dire,
on se dit, c'est bien que la France soit choisie comme le hub IA de SoftBank. Voilà.
SoftBank se déguise un petit peu en Père Noël. Donc, je pense que déjà, s'il y avait un zéro de moins, c'était 10 milliards, ce serait déjà pas mal. Et je pense que RTE, il serait aussi hyper content. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais dire, moi, en tant que Français, je suis assez fier. Parce qu'en Europe, ça veut, il a quand même, je sais plus, 27 pays en Europe, si je ne m'abuse. Okay, donc, il a 27 options, plus l'Angleterre à côté. On va dire 28. Okay, et il choisit la France. Pourquoi il choisit la France?
Alors, Macron a fait une grosse opération de lobbying. Mais oui, voilà, mais oui, après, derrière, ça suffit.
Oui,
pas,
c'est vrai que la crédibilité et le poids de Macron ont particulièrement joué, j'imagine. Mais il y a peut-être autre chose que Macron, parce que les Japonais et SoftBank, ils savent très bien qu'il y a des élections présidentielles, et il y a un truc dont ils sont sûrs, c'est que ce ne sera pas Macron le prochain président, parce qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit juridiquement. Okay, donc, le poids de Macron, je rigolais un petit peu tout à l'heure, il est tout à fait relatif, même si sa personnalité est probablement très appréciée.
Mais c'est-à-dire que de SoftBank. De voir, j'imagine pour SoftBank, voir, bon, on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, hein, qui est parti lui-même chercher cet argent, là il voit voilà, un nouveau chef d'État qui
pourquoi
va
quoi parce qu'il y a RTE et EDF. Bah. Et qu'il y a des centrales nucléaires en France, qu'il y a de l'énergie en France, qu'il y a un savoir-faire en France, et je ne suis pas le mieux placé ici pour en parler, mais ça, ça a du poids. Et ça, c'est une fierté. Et en effet, tous ces investissements qui ont été faits pendant des années et des années et des années, plus de 50 ans, dans l'énergie et dans l'électricité en France, eh bien, il paye, il a payé, il continue à payer, et surtout, il continuera à payer.
C'est ce qu'a dit Yves, est très juste. Aujourd'hui, quand on regarde, je peux pas parler de SoftBank précisément, parce que je ne connais pas l'annonce précise, puisque c'est encore une rumeur, mais il y a beaucoup de data centers qui sont en train de s'installer en France, et on a beaucoup, beaucoup de demandes, nous, EDF, de raccordement avec à travers RTE pour les data centers. Pourquoi? D'abord, parce qu'effectivement, en France, et on est le seul pays d'Europe pour lequel c'est le cas, hein, il faut le savoir. Alors, le UK, c'est le cas également, opéré par EDF d'ailleurs, mais parce qu'on a donc nos centrales nucléaires en France qui produisent des
capacités
décarbonées, pas chères, et disponibles en très grande quantité. Pour vous donner une illustration, en 2025, on a exporté cette électricité qu'on n'a pas utilisée en France et qu'on a vendue à nos concitoyens, à nos confrères et amis allemands, espagnols, italiens, etc. C'est 90 TWh. Donc, on peut en accueillir des data centers. Il n'y a aucun problème. On a tout ce qu'il faut pour les accueillir. Donc, bas carbone, pas cher et disponible en très grande quantité. Ça, c'est l'énergie. C'est le premier souci hein, de quelqu'un qui veut installer un data center. Donc, en Europe, clairement, la France, on est le mieux placé pour offrir une alimentation électrique performante et décarbonée aux data centers. Après, on a un sujet qui est le raccordement, parce que en fait, souvent, quand on dit construire un data center, on s'imagine, on va mettre une grosse boîte, on va foutre quelques câbles là-dedans,
et des câbles, et puis hop,
on va mettre un petit câble, puis en un an, c'est fait. En fait, aujourd'hui, un raccordement de data center, c'est plutôt 5-6 ans.
Oui.
Donc ça, la France a beaucoup, beaucoup travaillé.
Mais déjà, il faut acheter le foncier, enfin voilà, selon le
construit. Et donc, il y a eu énormément de travail qui a été fait ces dernières années par RTE, par EDF, etc., par l'État français aussi, hein, sur la réglementation, pour accélérer les raccordements. Nous-mêmes, on a lancé, c'est public, hein, des appels d'offres, enfin des appels à manifestation d'intérêt, comme on dit en langage administratif français, où en fait on dit aux gens, regardez, nous, on a des terrains pas loin de centrales nucléaires, avec un raccordement qui peut se faire très rapidement, puisque pas loin de la centrale nucléaire, et donc pour des data centers, on peut vous les mettre à disposition. Donc bref, la France s'est vraiment mobilisée autour de ces sujets-là. Donc je ne suis pas du tout étonné que SoftBank ou d'autres, parce qu'en fait il y a beaucoup d'autres projets dans le pipe, hein, viennent dire, moi je veux lancer mes data centers en France. Effectivement, c'est le résultat de 50 ans de
On a Brookfield qui veut mettre 10 milliards d'euros du côté de Cambrai, Digital Realty aussi, opérateur, lui c'est à 2,3 milliards à Marseille, à Dugny, Prologis, 6,4 milliards pour 4 centres en Ile-de-France. Enfin voilà, il y a une soixantaine de sites disponibles.
Beaucoup d'acteurs américains font le tour en ce moment de tous les énergéticiens de la place pour aller justement dire, moi je veux m'installer, je veux acheter des grandes quantités d'électricité, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme condition? Donc je veux dire, on est aujourd'hui vraiment dans un moment intéressant pour la France par rapport à l'installation des data centers, et c'est beaucoup grâce à notre énergie, il faut le dire.
Et j'étais en début d'après-midi à Bouchain, justement, suite à, dans le cadre de ce que tu disais, pour voir un de ces sites et me rendre compte moi-même
que c'est
site de 30 hectares
en train de sortir de terre.
C'est intéressant de voir ça.
Bruno, quand est-ce que tu viens vivre en France, justement, pour vivre cette plénitude de data centers, d'énergie?
Non, je vais vous regarder de loin. Je pense que je vais apprécier ma verdure canadienne. Mais plus sérieusement, je pense que c'est un bon coup parce que Choose France, ça fait quand même quoi, 2-3 ans que ça circule comme grande campagne de ralliement des investissements étrangers en France. Puis bon, ben, il faut voir qu'avec si ça se confirme, 100 milliards de dollars, je pense que il aura remporté son pari avec la chose. Sauf que cette installation-là, quand on installe une infrastructure comme celle-là, moi, il y a toujours 3 ou 4 questions qui viennent en tête. L'électricité, bon, Yves Maître en a parlé, même chose pour Julien, vous en avez. L'eau, ça va prendre de l'eau hein, pour refroidir tout ça, à moins qu'on développe une technologie magique. Puis à côté de ça, il y a d'autres questions. C'est SoftBank qui amène de l'argent pour financer ce projet-là, mais qu'est-ce qu'on fait du dossier de la souveraineté des données? Qui va être en contrôle de cette infrastructure-là? C'est des questions qui sont soulevées. Et puis, évidemment, ben, va falloir attendre le jour de la signature du document pour voir qui sont les joueurs autour de la table et qui a vraiment le contrôle là-dessus, autant dans le contenant que dans l'infrastructure.
Oui. On va. J'ai juste un point hein, par rapport à Julien. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'électricité elle est pas chère.
L'électricité elle est vraiment pas chère en France.
Écoute.
Et d'ailleurs si on regarde, c'est intéressant, Détroit d'Hormuz.
Pas cher en France.
Pas mal de difficultés aujourd'hui pour s'alimenter en gaz dans le monde entier et en Europe en particulier. L'électricité aujourd'hui en France, malgré le fait qu'on fasse partie du marché européen, on a l'avantage du nucléaire qui joue sur nos prix, nos prix B2B en France aujourd'hui par rapport à l'Allemagne par exemple.
Enfin, l'énergie c'est quand même une grande source de dépenses pour les Français. Certes le pétrole.
C'est bien sûr une grande source.
Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de Français qui chauffent à l'électricité et ça, c'est pas toujours facile.
Mais encore une fois, le prix de l'énergie est un sujet, mais l'électricité par rapport à toutes les énergies est une énergie pas chère en France.
Allez, autre sujet, messieurs, c'est dans la course à l'IA, hein, Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk continue, elle, de perdre du terrain sur ses concurrents OpenAI et Anthropic, qui sont, eux, en plein boom. Et le patron de SpaceX, Elon Musk, ambitionnerait pourtant d'en faire l'IA la plus populaire au monde. On écoute ce que nous en dit Paul Waller et on se retrouve juste après.
Ils étaient plus de 20 millions en janvier à avoir téléchargé Grok, contre seulement 8,3 millions le mois dernier. Une chute qui laisse l'IA d'Elon Musk à la traîne par rapport à celle de ses concurrents. Plus de 50 millions de téléchargements le mois dernier pour ChatGPT, 32 millions pour Gemini de Google et près de 20 millions pour Claude d'Anthropic. D'autant que le pic de téléchargement observé en début d'année pour Grok était surtout lié à une mise à jour permettant aux utilisateurs de déshabiller virtuellement une personne sur une photo. L'accès à cette fonctionnalité a depuis été limité. Ce retard s'explique par une croissance quasi inexistante du côté des grandes entreprises, des fonctionnalités controversées et une forte dépendance au réseau social X qui perd lui-même des utilisateurs. XAI, la start-up à l'origine de Grok, a récemment été réorganisée et fusionnée avec SpaceX, entreprise qui va s'introduire en bourse cette année, l'une des plus grandes de l'histoire, des milliards de dollars donc, qui pourrait permettre à Musk de relancer son IA.
Oui, il faut pas oublier, Bruno, je commence avec toi, Bruno Guglielminetti, pas oublier qu'on est en plein dans les... Tout le monde va entrer en bourse hein, bientôt, on est en plein dans les appels d'IPO, donc les effets d'annonce sont importants. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce Grok qui perd un peu de terrain par rapport à OpenAI?
Dans le fond, Elon Musk a deux possibilités. Ben, évidemment, il pourrait gagner sur les deux terrains, c'est-à-dire qu'avoir Grok, qui est une IA générative et qui fonctionnerait et que ce serait la plus utilisée, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne semble pas être le cas, et on ne s'en va pas dans cette direction-là quand on regarde les chiffres d'utilisation et de téléchargement. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, où il est en train de remporter la partie, c'est comme fournisseur de services avec son centre de données Colossus, notamment, mais d'autres centres sur lesquels ils sont en train de travailler aussi. Et c'est là où, moi, j'ai l'impression que Musk va sortir son épée du jeu, c'est-à-dire qu'il va arriver à être un excellent fournisseur de services, d'infrastructures pour faire fonctionner l'IA, mais ça ne sera pas nécessairement le joueur clé au niveau la solution logicielle là, de l'IA en tant que telle, le modèle. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va devoir faire un deuil. C'est pas pour rien que à un moment donné, XAI est disparu quelque part cette semaine pour se retrouver happé dans SpaceX AI. Oui. Il y a quelque chose là, il y a un message qui est là. Évidemment, il y a des gens qui vont dire, ben, ils veulent bonifier l'entreprise pour que par la suite, ça soit intéressant pour les gens qui veulent investir dedans. Quand ça sera le temps d'investir dedans. Mais entre-temps, je pense que lui a fait le constat aussi. Quand il regarde les chiffres, il n'est pas aveugle et il voit que Grok, c'est peut-être le malheureux de la grande famille des modèles qui sont utilisés à l'heure actuelle. Mais bon, il reste quand même une centaine de millions qui vont l'utiliser. Mm-hmm. C'est quand même pas pire.
Oui, oui, il y a quand même des utilisateurs derrière tout ça. Est-ce que ça veut dire, Julien, que le marché il est un peu verrouillé par les premiers entrants?
Moi, je crois d'abord que ça veut dire qu'Elon Musk, jusqu'à présent, a réussi tout ce qu'il a fait dans les infrastructures et dans le hardware et s'est planté dans tout ce qu'il a fait sur le service et le software. Mmh. Ça, c'est suffit de le constater. Il a vraiment pas réussi à apporter sa patte, qui est absolument brillantissime d'entrepreneur qu'on a vu sur le hardware, hein, sur les voitures, oui, sur les batteries, sur la fusée, etc. Bon, bah, sur le software et les services, ça n'a pas marché. Moi, j'ai ma clé de lecture à moi, c'est que sa vision radicale du monde en général, d'ailleurs, mais également de ce qu'il pense être bon de proposer aux consommateurs, ne résonne pas avec la masse, avec le plus grand nombre.
Je t'interromps, il avait dit, hein, xAI sera une alternative anti-mainstream. Hein,
exactement, c'est ce qu'il disait, hein. Parce que son positionnement, c'est ça, hein, politique, c'est de dire, voilà, je suis contre le mainstream, je suis contre tout ce qui pourrait représenter une forme d'establishment, de politiquement correct, de tout ce qu'on veut. Bon, résultat, forcément, c'est clivant. Et donc forcément, à la fin, il peut pas aller emporter l'adhésion de la majorité avec une IA dont on ne parle dans les médias que pour le fait qu'elle déshabille les gens, que bon, etc. Et que politiquement, elle est orientée, etc. Donc, je pense qu'en fait, ça s'explique assez logiquement. Après, il a quand même cette force, c'est qu'il a une telle galaxie de sociétés à sa main. Et il a cette capacité à faire passer les actifs, c'est pas la première fois qu'il le fait, hein, il l'a fait avec Twitter aussi, etc., à faire passer les actifs de l'une à l'autre, que bah, finalement, déjà, ces data centers, s'il les monétise pour d'autres, Anthropique par exemple, bon, après tout, très bien, il va comme ça permettre d'amortir son infrastructure, et il trouvera toujours un usage pour des LLM ou des modèles qui sont performants, hein, parce que le modèle de xAI sont performants et de qualité, soit pour ses propres besoins, soit en le commercialisant pour d'autres, de façon peut-être moins premium que les modèles les plus avancés du marché. Donc, à la fin, Musk retombe sur ses pattes, ça j'en suis à peu près persuadé.
Alors, on va marquer une très courte pause et on t'écoutera Yves juste après, parce qu'on arrive vraiment à la moitié de ce débrief. On se retrouve juste après pour continuer justement à parler de Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk qui continue de perdre du terrain. Et justement, est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il vaut mieux une IA meilleure ou est-ce qu'il vaut mieux, pour Musk, hein, c'est ce qu'il pense, une IA différente politiquement et culturellement. Allez, on s'écoute et puis on aura d'autres sujets. On reparlera de eBay, GameSpot. On aura Arthur Mensch, hein, qui était devant le Sénat tout à l'heure. On écoutera un peu ce qu'il a dit, on vous fera réagir dessus. Voilà nos sujets pour la demi-heure qui arrive.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, partie 2 avec nos débriefeurs de soir, Yves Maître, opérationnel partner chez Jol Capital, Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique et qui nous accueille chez lui depuis Montréal, Québec, et Julien Villeray, directeur d'innovation chez EDF. Messieurs, on va écouter Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, l'un des trois cofondateurs. Il était à l'Assemblée. Les députés l'ont auditionné dans le cadre de la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l'indépendance de la France. Voilà un dialogue très député, on va dire, très, très politique. Et selon lui, selon Arthur Mensch, il est important que la France s'empare de la question. On écoute ce qu'il dit et on revient juste après.
Je pense qu'ils s'en inquiètent pas suffisamment. Je pense que les vulnérabilités qu'on a eues dans les 10 dernières années, elles vont être multipliées par 5 dans les 5 années qui viennent en termes économiques. Donc, si on ne fait rien, donc voilà, nous on travaille pour réduire cet impact, mais il faut voir la vague venir. Hein. L'intelligence artificielle, c'est des coûts et des dépenses et un déficit commercial potentiel qui est de l'ordre de 10% de la masse salariale européenne, si vous voulez. Donc on parle pas de petits chiffres.
Voilà, d'emblée, Arthur Mensch prévient, ça va coûter cher, il va falloir investir encore davantage, mais il est important d'avoir cette souveraineté, d'avoir cette dépendance, enfin que cette dépendance elle soit, enfin cette indépendance ou quelque part cette dépendance, mais qu'elle soit européenne. On rappelle, hein, il y a quelques semaines, il publie un document, Mistral, hein, et Arthur Mensch publie un document de 22 propositions pour accélérer le développement de l'IA en Europe, renforcer l'attractivité des talents, structurer l'offre locale, réduire la dépendance aux acteurs américains et chinois. Voilà, il faut soutenir ce type d'initiative, Yves.
Ah oui, moi je suis absolument convaincu qu'il faut soutenir ce type d'initiative. Encore une fois, c'est toute la chaîne de valeur, hein, qui doit être soutenue, commençant par les centrales nucléaires, puis les data centers. Il y a quelque chose qui nous manque, c'est les bouts de silicium, hein, c'est le chipset, c'est-à-dire enfin, voilà, ce que vous avez dans votre smartphone ou dans votre ordinateur, hein, Intel, etc., Nvidia, qui est le leader. Puis après, bah, la suite, c'est le software. Puis après, c'est les applications ou les agents. Mais ça vient après. Mm-hmm. Et donc là, on a la chance en Europe d'avoir une brique. Avant, on en avait deux, mais qui a mergé avec la brique allemande et canadienne qui viennent de merger. Donc, on n'en a plus qu'une qui est purement européenne. Hein, sans quoi, nos amis canadiens sont welcome. Donc, on va dire qu'on a deux briques ou une brique trois quarts, qu'importe. Et donc, il est absolument, mais absolument, absolument essentiel de tenir cet asset, quel que soit son niveau de compétitivité pour le
grand public. D'ailleurs, il le dit, hein, ça peut être déficitaire et tout ça. Il faut bien comprendre que
on peut perdre
de l'argent pendant des années.
On va perdre de l'argent. C'est pas on peut perdre, c'est on va perdre de l'argent. On va investir. Comme on a investi dans les centrales nucléaires dans les années juste après-guerre, et maintenant, on voit que plus de 70 ans après, ça continue à rapporter. Donc, c'est des investissements qui sont colossaux, de même nature. Parce qu'aujourd'hui, une centrale nucléaire, ça coûte cher, mais à l'époque, en relatif, c'était encore pire, enfin, ou mieux, ou plus important. Okay ? Et donc, il faut absolument investir. C'est de même nature que les investissements stratégiques qui ont pu être faits dans le nucléaire, qui nous donnent, pour l'armement ou pour le civil, une indépendance et qui permet à la France, c'est une des rares choses aujourd'hui qui permet à la France d'avoir une place unique dans le concert des nations. Et si on ne fait pas ça aujourd'hui, on va se pénaliser de cette voie du concert des nations du 21e, 22e siècle. Donc c'est essentiel. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que ce soit, il faut que les gens comprennent que l'intelligence artificielle, dont on a parlé tout à l'heure, Grok, OpenAI, etc., pour la majorité d'entre eux, c'est pour l'individu, mais il y a une intelligence artificielle pour les entreprises. Et aujourd'hui, la bataille de Mistral, c'est pas d'être dans votre smartphone, c'est que EDF, que Orange, que Total, que Louis Vuitton, que tous ces gens-là du CAC 40 et que toutes les petites entreprises de France et de Navarre et d'Europe utilisent une intelligence artificielle qui a été entraînée pour eux, par eux. C'est ça qui est important. C'est de parler français dans le monde de demain, de parler allemand dans le monde de demain, et pas qu'on soit tous obligés de parler que américain ou chinois. C'est aussi important, c'est culturel, j'allais dire, c'est aussi important que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la manière dont on s'exprime, la manière dont on vit. Si on ne sait pas garder notre indépendance, j'allais dire culturel de l'AI. Alors, évidemment, les gens de la culture vont me tomber dessus à la sortie des studios, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe sociologique pour l'ensemble du pays, et pas que financière.
Il l'avait dit, d'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il y a deux ans, au premier sommet, enfin, sur un sommet sur l'IA, il avait dit « Attention à ce qu'on ne soit pas dépassé par les biais ». Il faut une IA francophone.
Il faut une IA européenne. Il faut une IA, j'en parle dans mon livre, de la social-démocratie. Nous sommes un pays qui avons une histoire de social-démocratie. Nous sommes un pays qui avons une histoire d'humanisme. Si on ne fait pas ça, si on ne tient pas ça, et la seule manière de le tenir, c'est de tenir l'intégralité de cette chaîne de valeur, on n'a pas le chipset. Mais à la limite, on pourra revenir, entre autres avec le quantique, mais pas uniquement. Mais ça, si on le lâche, c'est fini. Ouais, c'est fini.
Bruno, on t'écoute à distance et puis on revient ici en plateau ensuite avec Julien.
Ouais, j'aime l'appel de Yves par rapport à cette forme de souveraineté, de nationalisme européen. Le problème que j'ai, moi, avec ça, c'est que Mistral, plus je le regarde, et mis à part le nom qui est français et son adresse du siège social qui est en France, le reste... C'est de l'étranger, là. On parle de financement.
Tu parles des investisseurs, oui.
Oui, mais c'est ça. Mais GPU, l'info nuagique, la distribution, le financement, tout ça vient de l'extérieur. Donc, c'est un peu comme si c'est tenu artificiellement. Et je sens pas... S'il y a deux ans, je sentais une volonté politique, aujourd'hui, je la sens pas. Et pourtant, vous devriez être préoccupé par cette question-là. Mais je sens pas qu'il y a une chaîne, un écosystème qui est autour, que ce soit Mistral AI ou que ce soit un autre joueur dont on connaît pas encore l'existence, mais qui est en train d'être développé. Je sens pas qu'il y a un écosystème comme ça qui est en train d'être mis en place pour être un joueur sérieux avec une infrastructure qui va l'aider à pousser et devenir la solution européenne pour régler justement l'hégémonie chinoise et américaine.
Julien.
Je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je vais évidemment pas le redire. Je pense que si on regarde le sujet d'un point de vue stratégique pour les entreprises, et c'est vrai pour EDF, mais c'est vrai pour les entreprises de défense, c'est vrai pour tout un tas d'activités, on a besoin d'avoir une IA souveraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux risques évidemment majeurs. La première, c'est que les fournisseurs des modèles chinois et américains, pour aller un peu vite, nous coupent l'accès aux modèles un jour. Donc finito. Oui. Vous pouvez plus. Bon, évidemment, on voit bien le problème que ça peut créer dans un monde où l'IA sera, est déjà partout et sera encore plus partout, où viennent attraper de la donnée, qui évidemment est censée être confidentielle, sécurisée, nationale ou européenne. Donc, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire, pour le coup, il n'y a pas d'autre choix. Ça ne veut pas dire, effectivement, comme le disait Yves, on aura du OpenAI ou du Anthropic ou dans la poche pour faire fonctionner notre téléphone. C'est pas très grave. On s'en passera. Au pire, voilà, s'il faut, on changera de téléphone. Mais par contre, il y a des applications. On ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quelques entreprises à faire appel à Mistral ou à d'autres qui développent
des choses. Tu dis quelques, elles sont, deviennent de plus en plus nombreuses.
Elles sont de plus en plus nombreuses.
Y compris, tiens, même Hollande, en Hollande, aux Pays-Bas, ASML, qui fait appel pour certains de ses process
industriels. Mais la masse critique n'est pas probablement encore là. D'un point de vue économique, pour eux, effectivement, la question de, voilà, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour investir? Est-ce qu'ils ont accès aux bons GPU? Est-ce qu'ils ont les data centers? Enfin,
qu'ils sont 700-800 personnes aujourd'hui, déjà.
Ça, c'est des questions qui sont absolument majeures et, enfin, voilà, je parlais tout à l'heure des cash flows de Google qui arrivent à être négatifs ou neutres alors qu'ils rendent des centaines de milliards de bénéfices par an. C'est bien parce qu'ils les investissent quelque part. Évidemment, Mistral n'a pas aujourd'hui ces moyens-là. C'est une vraie question. En tout cas, on en a absolument besoin.
Je voudrais juste modérer. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Bruno. J'ai juste un petit trigger de modération, enfin, ou de pondération à faire. C'est le fait que ce soit open source, parce que dans cette bagarre à l'intelligence artificielle, enfin à sa partie software dans cette chaîne de valeur, il y a encore deux idéologies qui s'affrontent. Une idéologie système fermé, avec OpenAI, avec Anthropic, avec Gemini, Google ou avec Grok, ok. Et puis une autre bataille qui sont les systèmes ouverts. Okay. Alors, pareil, entre une porte ouverte et une porte fermée, elle est à moitié ouverte, elle est aux trois quarts. Donc, on peut... là encore, il y a tout un débat. Mais sous Mistral et sous la question de la souveraineté européenne, quelque part, que Mistral représente, avec tous les problèmes de financement et que tu as tout à fait justement rappelé aux auditeurs, il y a une autre bataille qui est la bataille des systèmes fermés et des systèmes ouverts. Il faut savoir que, en effet, quand on est dans un système ouvert, on peut s'appuyer sur d'autres systèmes ouverts. Paris que les Chinois ont fait, pas pour des questions d'ouverture, la Chine n'est pas particulièrement connue politiquement pour son ouverture, ok, mais pour des raisons de stratégie. Ok, et donc c'est vrai que le fait que Mistral soit un système ouvert lui permet d'avoir moins de besoins de financement parce que, ou de création d'écosystèmes parce qu'elle attire d'autres universités du monde entier, d'autres gens qui ont cette philosophie de système ouvert et qui travaillent pas uniquement pour des valeurs qui sont des valeurs d'enrichissement de leurs entreprises. Donc je pense qu'il y a quand même cette différence-là, et il faut soutenir Mistral pour les deux raisons, l'une en tant que national, enfin en tant qu'européen, et le deuxième en tant qu'idéologue, quelque part, ou à titre personnel, je trouve qu'il faut absolument un équilibre entre les systèmes fermés, qui sont nécessaires et qui sont utiles, et les systèmes ouverts, qui sont nécessaires et qui sont utiles. Et Mistral représente une des rares alternatives occidentales, peut-être, je ne vais pas dire la seule, mais quasiment la seule.
À un moment, on imaginait aller rapport en Allemagne, mais voilà, ils ne sont pas...
On en parlait tout à l'heure, mais en tout cas, elle est en retrait aujourd'hui par rapport à Mistral. Et donc, c'est le seul player, enfin, joueur d'open source dans ce domaine-là qui est capable de rivaliser quelque part avec les Américains. Les autres en open source, ce sont les Chinois. Mais c'est autre chose. On ne veut pas non plus qu'on devienne chinois sous prétexte qu'on soit open source.
Et je pense qu'il est important pour Arthur Mensch de venir aussi devant ses députés, qu'il soit de toute obédience, parce que les gens, parce que je suis sûr on va rentrer en campagne présidentielle, campagne législative, les gens vont avoir du mal à comprendre qu'une entreprise qui est valorisée 10, 15, 20 milliards, on comprend pas qu'elle perde de l'argent, enfin les gens qui en sont pas...
Je rappelle quand même juste que dans ce pays, on voulait taxer des gens comme Mistral, qui ne gagnent pas d'argent puisqu'ils en investissent énormément, pour pouvoir faire rentrer de l'argent virtuel, donc inexistant, dans les caisses de l'État. C'est dire la compréhension que peut
c'est
avoir
pour ça
la représentation
que je dis, c'est
nationale
qu'il a,
de l'entrepreneuriat.
C'est pour ça qu'il a, il a raison d'aller parler à ses députés
et tout à fait.
Sur ce sujet-là. Mmh. Est-ce que, Bruno, tu veux rajouter quelque chose ou on passe au sujet suivant?
Moi, j'ai au sujet prochain.
Eh bien, tiens, garde le micro. Je vais faire réagir là parce que eBay, on vous en a parlé, c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. eBay rejette l'OPA de GameStop à 56 milliards de dollars. Il juge cette offre ni crédible ni attrayante. Alors, il faut savoir que c'est le petit qui rachète le gros, hein. Mais la société spécialisée dans le jeu vidéo n'a pas dit son dernier mot. Le PDG de GameStop se dit prêt à présenter son offre directement aux actionnaires d'eBay. Mais cette envie de rachat ne plaît pas forcément aux investisseurs de GameStop, eux-mêmes qui commencent à vendre leurs actions. On écoute ce que nous en dit Clarisse Marion et on revient juste après. On démarrera avec toi, Bruno.
Le plan de financement de GameStop n'a pas convaincu le conseil d'administration d'eBay. Où trouver les 56 milliards de dollars, le PDG de l'enseigne du jeu vidéo a évoqué un emprunt de 20 milliards auprès de la banque d'investissement TD Securities et sa capacité à émettre des actions GameStop pour financer l'opération. Le refus de cette offre non sollicitée n'est pas surprenant selon John Plassard de Cité Gestion.
On est dans une situation où effectivement, eBay ne pouvait même pas accepter, la proposition de GameStop parce que ça ressemble plus à de la spéculation qu'à autre chose.
L'offre à moitié en cash, à moitié en actions repose en réalité sur des produits dérivés et des options contre seulement 25 000 actions détenues directement, insiste John Plassard. Il faut dire que GameStop pèse 4 fois moins qu'eBay en bourse et son PDG mise sur d'importantes économies pour rentabiliser cette opération. L'idée est de dépoussiérer eBay et de s'appuyer sur les 1600 magasins américains de GameStop. Une perspective qui ne semble pas non plus convaincre les actionnaires du spécialiste du jeu vidéo. Michael Burry, le célèbre vendeur à découvert qui avait vu venir la crise des subprimes, a ainsi cédé sa participation après l'annonce de l'offre.
Alors Bruno, comment tu vois ce projet? Donc GameStop a annoncé ça il y a quelques jours, hein, qu'il souhaitait racheter eBay. C'est le plus petit, on l'a dit, qui a valorisé 4 fois moins que sa proie. Donc quelque part, voilà, sur un équilibre financier. Bon, enfin, on a déjà vu ça dans cet univers financier. Mais est-ce que tu comprends ce rejet d'eBay, sachant qu'eBay a vraiment besoin de se dépoussiérer aussi, ouais. Bruno?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bulle qui est montée au cerveau de Ryan Cohen. Quand il a eu cette idée-là.
Le d'ailleurs, patron de GameStop.
Oui. Et quand il a accordé d'ailleurs une entrevue à un média spécialisé, l'équivalent de BFM aux États-Unis, pour commenter son initiative, ça n'avait pas l'air clair dans sa tête. Et parce qu'il revenait toujours en disant oui, il y a la moitié qui est en argent, qui est content, et l'autre moitié, ça sera des actions. Et il n'y avait que ça. Et on a l'impression qu'il est en train de vouloir répéter ce qu'il a déjà fait dans le passé, c'est-à-dire prendre une entreprise qui est en difficulté et jouer offensif en espérant que l'histoire qu'il va raconter va plaire, va aller chercher des adhérents et il va trouver du financement comme ça. Mais j'ai pas l'impression que ça va se faire. Et basé sur tous les gens qui ont eu des intérêts envers l'acquisition d'eBay à travers les 25 ans, 30 ans que ça existe, il n'y a pas grand monde qui ont réussi. Alors, j'ai pas l'impression que ça va se faire.
Julien.
Juste pour ceux qui ne connaissent pas cette marque-là, GameStop, c'est comme si en France, on disait que Micromania veut racheter le Bon Coin. C'est
à peu près ça,
les équivalents locaux chez nous. Et donc, évidemment que ça n'a absolument aucun sens, mais évidemment que le patron de GameStop, il a un gros problème, c'est qu'il a plein de boutiques en dur dans des centres commerciaux vides, qui ne vendent plus rien, une boîte qui perd beaucoup d'argent. Et donc, il a besoin d'imaginer des scénarios qui vont lui permettre de réinventer son modèle, ça c'est la façon positive de le dire, mais peut-être aussi juste sortir la tête de l'eau en occupant le marché avec une histoire, parce que GameStop est coté en bourse. Hein,
oui, puis il y avait quelques liens de produits. C'est-à-dire eBay vend beaucoup de produits qu'il faut certifier, des cartes de collection, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, du coup, il y avait une logique, une petite logique industrielle. On pouvait aller certifier ça dans les magasins auprès de personnes.
Oui, enfin après, ça vaille 56 milliards de dollars, le fait d'avoir un petit millier de boutique qui va certifier des cartes Pokémon. Ouais. Bon, le modèle économique est peut-être pas évident quand même. Hein. Enfin, en tout cas, il me semble de mon point de vue. Après, voilà, GameStop est aux abois. Ça fait 10 ans qu'ils ferment les boutiques les unes après les autres. Évidemment, tout le marché du jeu vidéo s'est digitalisé. Enfin, voilà, tout le monde le sait. Donc, ils ont un vrai problème. Ils ont commencé à vendre des peluches comme Micromania en France. Bon, c'est difficile. C'est un business compliqué. Il y a beaucoup moins de marge que dans le jeu vidéo physique à l'époque. Donc, voilà, c'est plus un coup une tentative qu'une vraie vision stratégique de mon point de vue.
On comprend un peu ce rejet de la part d'eBay, de cette OPA.
Oui, mais et puis il y a une autre chose que je voudrais amener, c'est que le conseil d'administration d'eBay, parce que c'est lui, hein, c'est pas le CEO à ce moment-là, c'est le conseil d'administration qui reçoit une offre. Étant administrateur d'une société cotée en bourse aux États-Unis, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en tant qu'administrateur. Donc vous recevez une offre. En France, un conseil d'administration, de par la loi, a des représentants du personnel. Okay. Aux États-Unis, les administrateurs sont des représentants des actionnaires. Point. Okay. Donc, quand vous êtes représentant des actionnaires, soit directement nommé par l'actionnaire, soit neutre, mais quand même, à ce moment-là, c'est représentant, entre guillemets, des petits porteurs, c'est-à-dire ceux qui... Voilà. La seule chose que vous avez en tête quand vous regardez une offre, c'est est-ce que cette offre crée de la valeur pour l'actionnaire ou pas. C'est tout. Okay. Et est-ce qu'elle crée de la valeur équitablement pour tous les actionnaires ou pas. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et si vous ne répondez pas de manière rigoureuse et structurée à cette question, vous vous heurtez potentiellement à une class action. Et quand vous êtes au conseil d'administration, la class action, elle est personnelle. C'est-à-dire qu'elle peut être personnelle vis-à-vis d'un administrateur. Mm-hmm. Je vous assure que vous avez une class action personnelle, ça peut être la ruine totale, et ça peut être aussi du pénal en fonction de la class action. Okay. Donc, aucun membre d'un conseil d'administration ne peut raisonner autrement que par ce diktat de « je suis le représentant des actionnaires, de tous les actionnaires, et je dois avoir une équité pour tous les actionnaires ».
On comprend qu'il y a un coup de com' derrière tout ça.
Voilà. Voilà. Et donc, quand on regarde l'offre financière, la manière dont elle était structurée, pour laquelle, en effet, il a eu lui-même du mal à expliquer ce qu'il était en train de faire, bah vous dites, bah non, parce que tant que j'ai pas de sûreté pour mes actionnaires, ça veut pas dire qu'il va pas revenir, mais s'il revient, s'il revient, il va devoir avoir une offre beaucoup plus structurée et de montrer la création de valeur pour les actionnaires d'eBay.
Bruno, on connaît cette marque eBay depuis pas mal d'années, évidemment. Elle fait partie, voilà, des marques un peu fondatrices, hein, d'Internet. Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir eBay aujourd'hui?
Bah, eBay, ils sont déjà là. Ils ont pris leur place dans l'écosystème. Ça demeure un marché de vente un peu comme votre Au Bon Coin, mais sauf que là, c'est international. Et donc, ils ont pris des niches dans certains secteurs où ils sont incontournables. Mais évidemment, ça n'a plus l'ampleur que ça a eu à une certaine époque.
Mais ils peuvent faire tourner quand même.
Il y avait vraiment une compétition entre la
machine
eBay
continue
et Amazon.
À tourner. La machine continue à tourner.
Tout à fait.
Julien.
eBay gagne beaucoup d'argent, c'est un business absolument incroyable. C'est une plateforme qui coûte à peu près rien à faire tourner et qui évidemment rapporte du coup beaucoup d'argent puisque le coût marginal est extrêmement faible pour chaque nouveau client ou nouvelle vente. Donc non, c'est un business qui tourne très très bien. eBay, effectivement, ça peut avoir une image un peu moins contemporaine que d'autres acteurs qui sont arrivés plus tard, mais sur certaines niches, effectivement, ils sont, en particulier sur les objets de collection, etc., ils sont extrêmement bien positionnés.
Donc on peut imaginer quelqu'un avec une offre un peu plus sérieuse pourrait réussir à soit quelqu'un qui veut relancer un peu la marque avec d'autres vers d'autres axes, ou qui une offre un peu plus sérieuse puisse redonner un peu de vigueur à eBay, même si effectivement sur plusieurs créneaux il marche plutôt bien. Yves, tu vois
comment? Non, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Bon, je pense que eBay c'est en effet un petit peu poussiéreux. Je pense que quand même ça va, je veux dire, une telle action, une tentative comme ça, ça va quand même obliger eBay à se reposer des questions quand même. Et je pense que c'est pas non plus mauvais. Puis c'est la vie normale
Dire. Le patron de GameStop va se tourner vers les actionnaires d'eBay. Bon, derrière, il a quand même ses actionnaires, lui de GameStop, qui disent attention. Merci messieurs pour ce sujet. Allez, dernier sujet, c'est toi Bruno qui l'a proposé. Trump Mobile, alors rappelle-nous ce qu'est Trump Mobile et on va essayer de comprendre pourquoi ça tourne au fiasco.
Ouais, ben Trump Mobile, c'est une initiative de la famille Trump. Ça avait été annoncé l'an dernier. On proposait Trump Mobile, c'est un fournisseur de services de téléphonie mobile à la grandeur des États-Unis, et venait avec cette offre à l'équivalent de $49 par mois. Venait avec cette offre la possibilité d'acheter un téléphone, le T1 pour Trump 1, et cet appareil-là, on le vendait à $495, et évidemment pour chaque enthousiaste ou membre manga, on leur offrait de faire un dépôt pour mettre la main sur un téléphone qui allait sortir quelques mois plus tard. Alors, $100 ont été versés par 590 000 personnes, donc presque 600 000 personnes qui ont déposé $100. Et un an plus tard, il n'y a pas de téléphone, Il n'y a pas encore de services qui sont offerts. Et là, il y a des gens qui sont en train de se dire, on s'est fait flouer.
Rembourser.
oui, et là, on commence à avoir des propositions de poursuite envers les gens de Trump Mobile parce qu'on voit rien. Et le pire là-dedans, c'est qu'entre l'appareil qu'on nous a présenté il y a un an et l'appareil qu'on nous a présenté il y a quelques mois, ce n'est plus du tout le même modèle de téléphone. Et un téléphone qu'on vantait en février dernier, il y avait un des membres de l'exécutif qui disait que c'était vraiment un téléphone haut de gamme qui tournait autour de la valeur de 1 000 $, mais qu'on offrait à 495 $. Ben finalement, il y a des gens qui ont fait enquête et qui ont dit non, c'est plutôt un téléphone qui a été drôlement influencé par un appareil qui existe déjà et qui se vend 100 $, même 149 $ en Chine. Alors, c'est vous dire qu'il y a un coût d'argent, un, qui a été fait, mais il y a beaucoup de gens qui ont été laissés sur la rue. Et là, ben, vous avez presque 600 000 personnes oui. qui ont peut-être espoir de revoir leur dépôt, mais sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des poursuites dans ce dossier-là.
Le réseau, Bruno, c'était ce qu'on appelle chez nous un MVNO, c'était un opérateur virtuel. Quoi. Voilà, c'était pas un réseau ouais. qui était déployé physiquement. Voilà, il utilisait il était censé utiliser les infrastructures des opérateurs existants. On est bien d'accord là-dessus.
Tout à fait. Ouais.
On voulait terminer avec ce petit sujet un peu léger. Julien, ton regard.
Bienvenue dans les années 2000. On a voilà. connu ça en France, en Europe, hein, dans les années 2000, du celebrity marketing, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui mettaient leur nom sur des téléphones et des MVNO mm-hmm. qui devenaient.
On avait l'iPhone, on avait Bono hein, qui avait signé avec YouTube.
Alors, oui, alors là, ça, on voilà. est dans le celebrity
là,
marketing,
le
mais assez haut de gamme quand même. Oui, là, on n'est pas tout à fait. Non, des ouais. stars et starlettes de télé-réalité qui lançaient des mobiles avec des personnalisations, des sonneries à l'époque, ouais. des fonds d'écran, que sais-je, et qui offraient des accès sur des réseaux mobiles qui prenaient leur nom. Mmh. C'était juste le nom évidemment en haut du téléphone. Ah oui. C'était rien de plus parce que derrière, c'était les grands réseaux qui fournissaient le service. Bon, bah voilà. Moi, je, cette histoire m'amuse que je la suis sur le site de The Verge qui en fait un ah feuilleton oui. là maintenant depuis un an hein, quasiment. Et ça a l'air d'aller de Caribansie là. Donc voilà. Mais en fait, on l'a déjà vu voilà il y a très longtemps. C'est un peu un revival finalement. C'est un peu comme la coiffure de Trump. Quoi.
Yves.
Non, je pense qu'il y a en effet, comme tu dis, 600 000 personnes qui se sentent trompées.
Oui. Voilà. Oh, très bien. François n'est pas là, mais il aura apprécié.
Oui, il aura apprécié, je sais, oui. Et non, je pense que l'offre était juste délirante, enfin, irréaliste. Et c'est la différence entre, quand on fait la politique, on peut raconter plein de choses. Et puis bon, ben voilà.
Ben, on est servi.
Quand on fait la politique en disant vous allez avoir quelque chose dans vos mains, ben là, à un moment donné, la réalité, enfin, comme je dis toujours, la physique a la tête dure, hein, la loi de la mmh. gravité, c'est la loi de la gravité. Hein, quand on lance une pierre en l'air, elle retombe, enfin, en tout cas sur la Terre. Ok, donc la physique a la tête dure, la matérialité, la réalité a la tête dure. Ben, quand on joue avec la réalité, ben, à un moment donné, ça retombe, quoi. Et là, ça fait un peu mal parce que la réalité fait qu'il ne délivrera rien, il peut pas le délivrer. Et en tout cas, surtout pas du Made in America. Le dernier constructeur qui a fait des téléphones aux États-Unis s'appelait Motorola. Il était un peu plus malin et un peu plus fort que Donald Trump et ses équipes. Et aujourd'hui, il appartient aux Chinois. Mm-hmm. Donc, c'est la loi de la physique à la tête dure, quoi.
Messieurs, merci d'avoir passé une partie de cette soirée avec nous. Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique, bien entendu, que l'on vous conseille, évidemment, pour suivre toute la tech qui nous passionne, qui vous passionne. Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital. Et donc, regardez bien la librairie de l'écho si vous êtes un fan de cette émission d'Emmanuel Le Chypre ce week-end sur BFM Business. Yves sera là avec son livre. Arrêtez de dire bonjour à votre IA, hein, c'est bien ça.
Édition First.
Aux éditions First. Et puis Julien Videret, directeur de l'innovation chez EDF. Merci encore Julien
merci.
D'avoir été avec nous pour cette veille de courte semaine. Voilà pour ceux qui feront le pont à partir de jeudi. Mais nous, on sera bien là demain soir pour continuer à débriefer l'actu. Mais la soirée n'est pas finie. Tiens, on va fêter les bougies. On va souffler les bougies de Spotify qui fête ses 20 ans. On enchaînera d'ailleurs, tiens, avec le Campus Cyber. Vous savez, c'est cette structure en France autour de la cybersécurité qui réunit la crème de la cyber et eh bien qui s'inquiète évidemment comme beaucoup hein, de cette IA mythos. Mais auparavant, on va retrouver Léa Benaim pour tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech aujourd'hui. Tiens, Google s'est manifesté là ces dernières minutes. Ils sont en train de changer pas mal de choses avec une certaine Gemini Intelligence. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.